Chapitre 20e. À la fin de cette journée, pendant laquelle Ernestine de Beauménil avait été à son insu l'objet de tant de cupides convoitises, de tant de machinations plus ou moins habiles ou perfides, la jeune fille, seule dans l'un des salons de son appartement, attendait l'heure du dîner. La plus riche héritière de France était loin d'être belle ou jolie. Son front trop grand, trop avancé, les pommettes de ses joues trop saillantes, son menton un peu long, donnait à ses traits beaucoup d'irrégularité. Mais en ne s'arrêtant pas à cette première apparence, on se sentait peu à peu attiré par le charme de la physionomie de la jeune fille. Son front, trop prononcé mais uni, mais blanc comme l'albâtre, et encadré d'une magnifique chevelure châtain clair, surmontait des yeux d'une bonté infinie, tandis qu'une bouche vermeille, aux dents blanches, au sourire mélancolique et ingénu, semblait demander grâce pour les imperfections du visage. Ernestine de Beauménil, seulement âgée de 16 ans, avait grandi très rapidement. Aussi, quoique sa taille élevée fût parfaitement svelte, droite et dégagée, la jeune fille, convalescente d'une longue maladie de croissance, se tenait encore, parfois légèrement courbée, attitude qui d'ailleurs rendait plus remarquable encore la gracieuse flexibilité de son cou d'une rare élégance. En un mot, malgré sa vulgarité surannée, la comparaison d'une fleur penchée sur sa tige exprimerait à merveille l'ensemble doux et triste de la figure d'Ernestine de Beauménil. Pauvre orpheline abattue par la douleur que lui causait la mort de sa mère, pauvre enfant accablé sous le poids écrasant pour elle de son immense richesse. Contraste bizarre. C'était un sentiment de touchant intérêt, nous dirions même de tendre pitié, que semblait demander et inspirer la physionomie, le regard, l'attitude de cette héritière d'une fortune presque royale. Une robe noire bien simple que portait Ernestine augmentait encore l'éclat de son teint, d'une blancheur délicatement rosée. Les mains croisées sur ses genoux, la tête penchée sur son sein, l'orpheline semblait triste et rêveuse. La demie de 5 heures venait de sonner, lorsque la gouvernante de la jeune fille entra discrètement et lui dit « Mademoiselle peut-elle recevoir Mademoiselle de la Roche-Aigu ?»« Certainement, ma bonne l'aînée, » répondit la jeune fille en tressaillant et sortant de sa rêverie. « Pourquoi Mademoiselle de la Roche-Aigu n'entre-t-elle pas ?» La gouvernante sortit et revint bientôt précédant Mademoiselle Héléna de la Roche-Aigu. Cette dévotieuse personne n'aborda Ernestine qu'après 2 profondes et cérémonieuses révérences, que la pauvre enfant s'empressa de rendre coup sur coup, surprise, presque peinée, de voir une femme de l'âge de Mademoiselle Héléna l'aborder avec cette obséquiosité. « Je remercie Mademoiselle de Beauménil de vouloir bien m'accorder un moment d'entretien, » dit Mademoiselle Héléna d'un ton formaliste et respectueux, en faisant une 3e et dernière révérence, qu'Ernestine lui rendit encore. Après quoi, elle lui dit avec un timide embarras, « J'ai à mon tour, Mademoiselle Héléna, une grâce à vous demander. À moi, quel bonheur !» dit vivement la protectrice de Monsieur de Macreuse. « Mademoiselle, je vous en prie, ayez la bonté de m'appeler Ernestine, au lieu de me dire « Mademoiselle de Beauménil, si vous saviez comme cela m'impose. » « Je craignais de vous déplaire, mademoiselle, en me familiarisant davantage. »« Dites-moi, Ernestine, et non, mademoiselle. Encore une fois, je vous en prie, ne sommes-nous pas parentes ? Et plus tard, si je mérite que vous m'aimiez, » ajouta la jeune fille avec une grâce ingénue, « vous me direz, ma chère Ernestine, n'est-ce pas ?»« Ah, mon affection vous a été acquise dès que je vous ai vue, ma chère Ernestine. » répondit Héléna avec onction. « J'ai deviné que la réunion de toutes les vertus chrétiennes, si désirable chez une jeune personne de votre âge, florissait dans votre cœur. Je ne vous parle pas de votre beauté, si charmante, si idéale qu'elle soit, car vous ressemblez à une madone de Raphaël. Mais, » ajouta la dévote en baissant les yeux, « la beauté est un don fragile et périssable aux yeux du Seigneur, tandis que les qualités dont vous êtes ornées assureront votre salut. » À cette avalanche de louanges quasi mystiques, l'orpheline éprouva un embarras mortel, ne sut que répondre et balbutia. « Je ne mérite pas, mademoiselle, de pareilles louanges. Et je ne sais. » Puis elle ajouta, très satisfaite de trouver un moyen d'échapper à ces flatteries qui, malgré son inexpérience, lui causaient une impression singulière. « Vous avez quelque chose à me demander, mademoiselle ?»« Sans doute, » dit Héléna. « Je venais savoir vos ordres pour l'office de demain. »« Quel office, mademoiselle ? mais l'office où nous irons chaque jour. » Et comme Ernestine fit un mouvement de surprise, Mademoiselle Helena ajouta pieusement « Où nous irons chaque jour, prier pendant une heure pour le repos de l'âme de votre père et de votre mère. » La jeune fille n'avait pas eu jusqu'alors d'heure fixe pour prier pour son père et sa mère. L'orpheline priait presque tout le jour, c'est-à-dire que, presque à chaque instant, elle songeait avec un pieux respect, avec un ineffable attendrissement, aux deux êtres chéris qu'elle regrettait. Cependant, n'osant pas se refuser à l'invitation de Mademoiselle Helena, Ernestine lui répondit tristement « Je vous remercie d'avoir eu cette pensée, mademoiselle. Je vous accompagnerai. » La messe de 9 heures, dit la dévote, est la plus convenable, en cela qu'elle se dit à la chapelle de la Vierge, pour laquelle vous avez une dévotion particulière, m'avez-vous dit hier, Ernestine. Oui, mademoiselle, en Italie, tous les dimanches, j'assistais à l'office dans la chapelle de la Madone. C'était une mère aussi, et je ne sais pourquoi je préférais lui adresser mes prières pour ma mère. Elles seront certainement plus efficaces, ma chère Ernestine, et puisque vous les avez commencées sous l'invocation de la mère du Sauveur, il faut les continuer. Ainsi, nous ferons donc tous les jours nos dévotions à la chapelle de la Vierge, vers 9 heures du matin. Je serai prête, mademoiselle. Alors, Ernestine, vous m'autorisez à donner des ordres pour que votre voiture et vos gens soient prêts à 7 heures? Ma voiture, mes gens.
Certainement,
dit la dévote avec emphase. Votre voiture drapée et armoriée. Un des valets de pied nous accompagnera dans l'église, portant derrière nous un sac de velours où seront nos livres de messe. Vous savez bien que c'est l'usage chez toutes les personnes comme il faut.
Pardon, mademoiselle, mais à quoi bon tant d'appareils? Je vais seulement à l'église pour prier. Ne pourrions-nous y aller à pied? Dans cette saison, le temps est si beau.
Quelle admirable modestie dans l'opulence, s'écria la dévote. Quelle simplicité dans la grandeur. Ah, Ernestine, vous êtes bénie du Seigneur. Pas une vertu ne vous manque. Vous possédez la plus rare de toutes, la sainte, la divine humilité. Vous qui êtes cependant la plus riche héritière de France. Ernestine regardait Mademoiselle Helena avec un nouvel étonnement. La naïve enfant ne croyait pas avoir fait montre de si merveilleux sentiments en désirant d'aller à la messe à pied par une belle matinée d'été. Sa surprise redoubla en entendant la dévote continuer, en s'exaltant presque jusqu'au ton prophétique.
La grâce d'en haut vous a touchée, ma chère Ernestine. Oh oui, tout me le dit. Le Seigneur vous a béni jusqu'ici en vous inspirant des sentiments profondément religieux, en vous donnant le goût d'une vie exemplaire passée dans les exercices de la piété, ce qui n'exclut pas les honnêtes distractions que l'on peut trouver dans le monde.
Oui, Dieu vous protège, ma chère Ernestine, et bientôt, peut-être, il vous donnera une marque plus visible encore de sa toute-puissante protection. La faconde de la dévote, ordinairement silencieuse et réservée, fut interrompue par l'arrivée de Madame de la Rochegue, qui, moins discrète que sa belle-sœur, entra sans se faire annoncer. La baronne, assez surprise de trouver Ernestine en tête-à-tête avec Helena, jeta d'abord sur celle-ci un regard de défiance, mais la dévote reprit aussitôt un masque si béat, si peu intelligent, que les soupçons de la baronne s'effacèrent à l'instant. L'orpheline se leva et fit quelques pas devant Madame de la Rochegue qui, empressée, souriante, charmante et pimpante, lui dit le plus tendrement du monde en lui prenant les deux mains.
« Ma chère et toute belle, je viens, si vous le permettez, vous tenir un peu compagnie jusqu'à l'heure du dîner, car je suis jalouse du bonheur de ma chère belle-sœur. »«
Combien vous êtes aimable pour moi, madame, » répondit Ernestine, sensible aux prévenances de la baronne. Helena, se dirigeant alors vers la porte, dit à la jeune fille, afin d'aller ainsi au-devant de la curiosité de madame de la Rochegue,
« À demain matin 9 heures, n'est-ce pas? C'est convenu ?»
Et après un affectueux signe de tête adressé à la baronne, Helena sortit, reconduite jusqu'à la porte par Mademoiselle de Beauménil. Lorsque celle-ci revint rejoindre Madame de la Rochegue, la baronne, regardant l'orpheline venir à elle, s'éloigna de quelques pas à reculons, à mesure qu'Ernestine s'approchait, et lui dit d'un ton d'affectueux reproche
« Ah, ma chère petite belle, vous êtes incorrigible.
Comment donc cela, madame ?»
Je suis, je vous l'ai dit, d'une franchise, oh mais, d'une franchise brutale, impitoyable, c'est un de mes défauts. Aussi, je vous reprocherai encore, je vous reprocherai toujours de ne pas vous tenir assez droite. Il est vrai, madame, c'est malgré moi que je me tiens si quelquefois courbé.
Et c'est ce que je ne saurais souffrir, ma chère belle.
Oui ?
Je serais sans pitié, reprit gaiement la baronne.
Je vous demande un peu à quoi bon cette délicieuse taille, si vous ne la faites pas mieux valoir. À quoi bon ce visage ravissant, aux traits si fins, si distingués, si vous le tenez toujours baissé. Il est pourtant charmant à voir.
Madame, dit l'orpheline, non moins embarrassée des louanges mondaines de la baronne que des louanges mystiques de la dévote.
Oh, ce n'est pas tout, reprit madame de la Roche-Aiguë avec un affectueux enjouement. Il faudra que je gronde bien fort cette excellente madame l'aînée. Vous avez des cheveux admirables, et vous seriez mille fois mieux coiffée avec des anglaises. Votre port de tête est si naturellement gracieux et noble, quand vous vous tenez droite, bien entendu, que ces longues boucles vous iraient à merveille.
J'ai toujours été coiffée comme je le suis, madame, et je ne songeais pas à changer de coiffure. Cela m'étant, je vous l'avoue, assez indifférent.
Et c'est encore un reproche à vous faire, ma chère belle. Vous voyez que je ne finis pas. Il faut que vous soyez coquette, certainement très coquette, ou plutôt, c'est moi qui le serai pour vous. Je suis si fier de ma charmante pupille que je veux qu'elle éclipse les plus jolies.
Je ne puis jamais avoir cette prétention, madame, répondit Ernestine en souriant doucement.
Je voudrais bien que vous vous permissiez d'avoir des prétentions, mademoiselle, reprit en riant la baronne.
Je n'entends pas cela du tout, c'est moi qui les aurai pour vous, ces prétentions, en un mot.
Je veux que vous soyez citée comme la plus jolie, la plus élégante des jeunes personnes, de même que vous serez un jour citée comme la plus élégante des femmes, car entre nous, je vous connais depuis hier seulement, ma chère belle, et bien, à certaines tendances, à des riens que j'ai remarqués en vous, je suis sûr, et je vous l'ai déjà dit, que vous êtes née pour être un jour une femme à la mode.
« Moi, madame, » dit ingénument l'orpheline,
« j'en suis sûre. »
Et n'est pas femme à la mode qui veut. Il ne suffit pas pour cela d'avoir de la beauté, de la richesse, de la naissance, d'être marquise ou duchesse, quoique ce dernier titre relève singulièrement une femme.
Non, non, il faut réunir à tous ces avantages un je ne sais quoi,
qui fixe et commande l'attention, attire les hommages,
et ce je ne sais quoi, vous l'aurez.
Rien n'est plus facile à deviner en vous.
Mon Dieu, madame, vous m'étonnez beaucoup, répondit la pauvre enfant tout abasourdie.
Je vous étonne, c'est tout simple. Vous devez vous ignorer, ma chère belle. Mais moi, qui vous étudie, qui vous juge avec l'œil jaloux et orgueilleux d'une mère, je prévois tout ce que vous serez, et je m'en applaudis.
C'est une si ravissante existence que celle d'une femme à la mode.
Reine de toutes les fêtes, de tous les plaisirs, sa vie est un continuel enchantement. Et tenez, pour vous donner une idée de ce monde sur lequel vous êtes destiné à régner un jour, il faudra qu'après-demain nous allions en voiture aux Champs-Élysées. Il y aura une course au bois de Boulogne. Vous verrez revenir tout le Paris élégant. C'est une distraction parfaitement compatible avec votre deuil.
Madame, excusez-moi, mais ces grandes réunions m'intimident et je...
Oh, ma chère belle, reprit la baronne en interrompant sa pupille. Je suis intraitable. Il faudra faire cela pour moi. D'ailleurs, je tiens à être aussi bien traité que mon excellente sœur. Et à ce propos, voyons, ma chère belle, qu'avez-vous donc comploté pour demain matin avec cette bonne Héléna ?
Mademoiselle Héléna veut bien me conduire à l'office, madame.
Elle a raison, ma chère belle. Il ne faut pas trop négliger ses devoirs religieux.
Mais 9 heures, c'est bien matin.
Les femmes du monde ne vont guère qu'à l'office du midi. Au moins l'on a eu le temps de faire une élégante toilette du matin, et l'on rencontre à l'église des figures de connaissance.
J'ai l'habitude de me lever de bonne heure, madame,
et puisque mademoiselle Héléna préférait partir à 9 heures, j'ai pensé que cette heure devait aussi être la mienne.
Ma chère belle, je vous ai dit que je serai avec vous d'une franchise, d'une sincérité brutale.
Et je vous en remercie, madame.
Sans doute il ne faut pas, voyez-vous, être glorieuse de ce que vous êtes la plus riche héritière de France. Mais, sans vouloir abuser de cette position pour imposer aux autres vos volontés ou vos caprices, il ne faut pas non plus toujours vous empresser d'aller au-devant du moindre désir d'autrui.
Encore une fois, n'oubliez pas que votre immense fortune...
Hélas, madame, dit Ernestine, sans pouvoir retenir de larmes qui roulèrent sur ses joues.
Je fais mon possible au contraire pour n'y pas songer à cette fortune, car elle me rappelle que je suis orpheline.
Pauvre chère belle, dit madame de la Roche-Aiguë en embrassant Ernestine avec effusion. Combien je m'en veux de vous avoir involontairement attristé. Je vous en conjure, séchez ces beaux yeux. J'ai trop de regrets de vous voir pleurer. Cela me fait un mal. »
Ernestine essuya lentement ses larmes. La baronne reprit affectueusement.
« Voyons, mon enfant, du courage, soyez raisonnable. Sans doute, c'est un malheur affreux, irréparable, que d'être orpheline. Mais par cela que ce malheur est irréparable, il faut bien prendre sur vous, vous dire qu'il vous reste du moins des amis, des parents dévoués, et que si le passé est triste, l'avenir est des plus brillants.
« Qui est là ?» demanda la baronne.
« Le majordome de mademoiselle de Beauménil, » répondit une voix, « et il sollicite la grâce de venir se mettre à ses pieds. »
Ernestine fit un mouvement de surprise. La baronne lui dit en souriant,
« C'est une plaisanterie de monsieur la Rochegue, c'est lui qui est là derrière la porte. »
Mademoiselle de Beauménil tâcha de sourire aussi, et la baronne dit à haute voix,
« Entrez, monsieur le majordome, entrez !»
À ces mots, le baron parut, montrant plus que jamais ses longues dents, alors complètement découverte par le rire de satisfaction que lui inspirait sa plaisanterie. Il alla courtoisement s'incliner devant Ernestine, lui baisa la main et lui dit «
Mon adorable pupille continue-t-elle d'être contente de moi? Rien ne manque-t-il à son service? Trouve-t-elle sa maison sur un pied convenable? N'a-t-elle pas découvert d'inconvénients dans son appartement? Est-elle satisfaite de ses gens ?»«
Je me trouve parfaitement bien ici, monsieur. » « Trop bien même, » répondit Ernestine, « car ce magnifique appartement, pour moi seul, est... »«
Il n'y a rien de trop beau, charmante pupille, » dit le baron d'un ton péremptoire. « Il n'y a rien de trop somptueux pour la plus riche héritière de France. »«
Je suis surtout heureuse et touchée de l'affectueux accueil que je reçois dans votre famille, monsieur, » reprit Ernestine. « Et je vous l'assure, le reste a pour moi peu d'importance. »
Soudain, les deux battants de la porte du salon s'ouvrirent, et un maître d'hôtel dit à haute voix,
« Mademoiselle est servie. »